Bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour ce culte. Bienvenue à vous qui êtes présents ici. Je vous salue et vous accueille également si vous nous suivez en streaming. Peut-être cette fois à contre-cœur, étant donné les contraintes qu'on a de temps en temps. Nous nous retrouvons donc ce matin pour ce culte avec quelques nouvelles règles. Elles pourront peut-être évoluer d'ici ces prochains cultes. Il y a certaines qui ne dépendent pas vraiment de nous, il faudra pourtant s'y faire en tout cas un moment. Pour l'instant, entre les obligations et certains risques toujours bien présents, le conseil et le groupe sanitaire, le groupe de veille sanitaire, préfèrent jouer la carte de la sécurité. Et du coup, concrètement, avec l'introduction du certificat, il n'y a plus de limitation sur le nombre de personnes. Alors, ça va, il reste de la place. Il n'y a plus besoin de s'inscrire à l'avance. Par contre, on nous recommande quand même, en tout cas pour ce culte et voire pour les suivants, de garder le masque pour la durée du culte. Alors, on n'est pas dans un avion, on ne va pas se faire sortir par la sécurité, mais voilà, c'est une recommandation. Et même si il n'y a plus besoin de s'inscrire, on peut être un peu plus nombreux, ce n'est quand même pas un retour à la normale. Et on espère qu'on pourra retrouver certains gestes, certaines habitudes qui nous manquent, par exemple la présence des enfants pour le début du culte, les cafés après le culte et d'autres choses. On espère qu'on pourra retrouver ça. La situation évolue et le conseil, le groupe sanitaire vont certainement clarifier certains points d'ici les prochains cultes. Mais ce matin, le but, c'est pas de discuter de décisions techniques, de décisions politiques, sanitaires, parce que nous nous rassemblons pour un culte, pour vivre un culte ensemble, un culte avec Dieu. Le Dieu de la vie, le Dieu qui tient le monde entre ses mains. Certains affirment que si Dieu existait, ben le monde tournerait mieux. Il n'y aurait pas de guerre ou plus de guerre, il n'y aurait plus de maladies, de souffrances, toutes ces questions qu'on se pose et qu'on vit. Alors moi, je me dis surtout que si Dieu n'existait pas, eh ben le monde aurait certainement déjà fini de tourner depuis longtemps. C'est plutôt comme ça que je le prends et je le comprends. En admettant même qu'il ait pu commencer une fois à tourner ce monde sans Dieu. Alors Dieu nous appelle à nous rassembler en son nom, chacun de nous, tel que nous sommes. Il nous invite jeunes, moins jeunes, ensemble, rassemblés ici ou plus loin grâce à la technique, avec nos différences, nos parcours, nos sensibilités. Dieu nous appelle à vivre ce temps dans sa présence, à le célébrer, à le chanter et à témoigner déjà entre nous de sa grâce et de son amour. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chant qui dit « Dans la maison du Père ».
Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, vers la terre de notre joie. Nous te bénissons, libérateur, nous t'adorons, notre roi. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. À genoux devant ta majesté, nous bénissons ton Saint-Nom. Prosternés devant ta sainteté, tous émus nous t'adorons. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté.
Nous voulons nous rassembler en ton nom ce matin. Merci parce que tu m'as appelé, parce que tu as appelé chacun de nous. Nous voulons consacrer ce temps pour toi, te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons être à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Que tu viennes dans nos vies et que tu agisses en nous et que tu agisses au travers de nous. Fais de nous les témoins de ton royaume. Amen. Alors ce matin, quand on arrive avec son téléphone ou son papier pour le pass, ça fait peut-être un petit peu bizarre. Surtout pour entrer dans une église, pour un culte. On a l'impression qu'on se connaît, qu'on est un peu une famille. On n'est pas un spectacle, ou au restaurant, ou à une foire. Et pourtant, on n'y échappe pas. En tout cas, vous n'y avez pas échappé puisque vous êtes là, en tout cas présent. Ou alors, ceux qui nous suivent, peut-être que vous le subissez depuis chez vous. On se retrouve dans une situation un petit peu délicate, avec les tensions qu'on vit entre nos convictions personnelles, une confiance plus ou moins raisonnable, raisonnée face à la science, face aux décisions politiques, au poids de l'économie et tous ces enjeux. Et puis, il y a aussi les craintes, nos questionnements, qui sont bienvenus, qui sont légitimes, mais qui peuvent aussi conduire à certaines théories qu'on appelle des fois complotistes, conspirationnistes. Alors, pour les familles et les groupes d'amis, entre les questions d'héritage et d'argent, les questions de politique, voir les questions de sport qu'il faut des fois éviter lors des repas, eh ben vient s'ajouter celle de ces questions sanitaires, de sécurité. Ben c'est là et on peut le ressentir à différents moments, à différents niveaux, cette crainte, mais aussi cette confiance qu'on peut avoir en Dieu, qu'on peut avoir aussi dans le système. Bon, ce sera le message que Sylvain nous apportera. Un petit peu après, on prendra aussi un temps pour revenir sur le colloque. J'en parlerai tout à l'heure. Mais pour l'heure, je vous propose de nous tourner, ou de nous retourner, de nous détourner, pour nous tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui tient toute chose entre ses mains. C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. Et un moyen de se tourner vers Dieu, c'est de le louer. Et on va prendre un temps avec quelques chants pour le louer. Nous pouvons élever nos voix ensemble, le prier, lui dire qui il est pour nous, lui qui ne change pas. Alors je vous invite à vous lever, puis à chanter encore « Ô Dieu, tu es mon Dieu ».
Dieu, tu es. que je suivrai toute ma vie. Mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Je te cherche.
Ce Dieu qui me conduit pas à pas, ce Dieu que je veux suivre, qu'on veut suivre ensemble, c'est ce Dieu puissant, créateur. Quand on voit ou qu'on imagine, des fois c'est difficile de voir, qu'on imagine les étoiles, la taille de l'univers, tout ce qu'on en sait, quand on voit ces images de galaxies, ces représentations lointaines, tout ça créé par Dieu, pour que nous, des fois, on voit une grande carte avec plein d'étoiles, plein de lumière, une petite flèche, et là, au milieu de tout ça, et encore, il faut zoomer plein de fois à l'intérieur pour qu'on arrive à l'échelle de la Terre, pour que nous, petites créatures, là au milieu, nous puissions vivre, nous puissions le connaître, et qu'on puisse se retrouver dans sa présence. Nous venons dans ta présence.
Ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as
La parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. Elle a permis de devenir enfant de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, nous voulons élever ton nom, te louer, toi l'agneau de Dieu. Et nous voulons ainsi nous placer à ton écoute, nous placer devant toi, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous ouvres nos oreilles, nos esprits, pour recevoir ta parole et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Amen. Je vous invite à reprendre place et on continue justement avec la prédication. Je laisse monter. Merci.
Voilà, bonjour à vous qui êtes là. Bonjour à tous ceux, qui auraient peut-être voulu venir et qui ont été retenus. J'avais envie de partager quelques pensées aujourd'hui sur, d'une part, la peur, l'inquiétude, et d'autre part, sur son contrepoison, la confiance. On en a un peu parlé, de cette confiance, pendant tout l'été, en parcourant le patriarche Abraham. Puis Cédric Chanson nous en a aussi parlé dans sa prédication. Et voilà, alors, quelques pensées d'abord sur l'actualité. J'étais, il y a un mois environ, quelques semaines, je suis parti en Valais pour rendre visite à ma cousine. Et puis, un soir, on évoquait un peu ensemble, avec son ami, la vie de ce village valaisan de Vernamiège. Et puis, c'est ma cousine, son amie, elles avaient l'impression que les gens étaient devenus distants, méfiants, que, comme s'ils avaient perdu leur manière naturelle de se dire bonjour, de se demander des nouvelles, etc. Comme si la situation sanitaire d'aujourd'hui avait instillé une espèce de peur diffuse, comme ça, une peur qui met des barrières entre des gens et pas seulement celle des masques. Il me semble qu'il y a là une espèce d'effet pervers de la peur ambiante d'aujourd'hui. Et la prudence nécessaire et raisonnable se mue parfois en cette peur qui est diffuse et contagieuse. Comme si l'autre devenait un peu une menace potentielle. Alors, le Covid nous fait peur, et c'est normal, parce qu'on a tous des amis ou des parents qui ont été touchés plus ou moins gravement. Et puis maintenant, on a des vaccins qui ont été développés en un temps record. Mais maintenant, c'est le vaccin qui fait peur. Avec toutes sortes de craintes, dont certaines sont raisonnables et justifiées, d'autres moins. Et dans une situation comme ça, la tâche de nos autorités est délicate. Moi, je n'aimerais pas être à leur place. Je trouve que parfois on est un peu arrogant dans les critiques qu'on entend sur les autorités, comme si on avait tous la sagesse infuse. Alors avec ces peurs se développe un certain nombre de méfiances. Beaucoup de méfiance envers les autorités, peut-être encore plus dans le pays voisin qu'ici. Les méfiances envers les sources d'information, qui sont parfois si contradictoires dans ce qui nous arrive dans... je ne sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, etc., qu'on aura envie de se boucher les oreilles ou les yeux. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus profond et qui date de plus longtemps, qui a une espèce de méfiance envers la science et les scientifiques. Ça, c'est une méfiance qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est un peu un contre-coup d'une période déjà un peu lointaine, où on avait cru un peu naïvement dans la toute-puissance de la science et de la technique. Puis ça s'est un peu retourné parce qu'on a découvert beaucoup de risques de nos pouvoirs techniques. Et c'est vrai que la technique a ses risques, et plus on est puissant dans la technique, plus on est puissant dans les risques qu'on prend. Mais c'est une méfiance qui ouvre aussi la porte à toutes sortes de théories du complot auxquelles Joël faisait allusion tout à l'heure, mais aussi de résurgence de toutes sortes de choses qui viennent du monde païen d'autrefois. Voilà, toutes sortes de choses, certaines bonnes, mais d'autres très questionnables. J'ajouterais que dans tout cela, personnellement, moi je suis dans la reconnaissance de ce dont nous bénéficions, parce qu'on est quand même dans un pays privilégié, et quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays qui vivent, il y a des pays qui vivent des drames, sans comparaison avec nos difficultés du moment, il y a des pays où on n'a pas de système sanitaire suffisant pour faire face à une épidémie. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai cette reconnaissance. Maintenant, un des effets pervers, en plus de ces peurs et de ces méfiances, c'est les fractures qui arrivent dans la société. Hein, il y a les pros et les anti-vaccins. Bon, Joël y a fait allusion tout à l'heure. Hein, il y a toutes sortes de choses dont on a de la peine à discuter sereinement. Et puis, ça nous affecte aussi comme Église. Ce n'est pas étonnant, parce que, en tant que chrétien et communauté chrétienne, on est naturellement et normalement affecté par ce qui se passe dans la société, par les problèmes, par les situations, par les fractures. Et puis cette exigence du pass sanitaire qui vient d'arriver il y a une dizaine de jours, elle nous a passablement affectés pendant cette dernière semaine, alors qu'on avait annoncé auparavant que les cultes ne seraient pas touchés. Alors, on peut être choqué de ça. J'ai vu un article très intéressant de Martin Heurger qui expliquait pourquoi, à son avis, les cultes ne devraient pas être soumis. C'est là une chose qui ne devrait pas être soumise au pass sanitaire. Mais par ailleurs, peut-être que ça nous rend solidaires de gens, d'autres gens dans la société qui sont encore plus embêtés que nous. Mais c'est vrai que pour nous, l'idée de devoir refuser à quelqu'un l'entrée au culte, ça nous fait mal. Et il y en a parmi nous, je sais qu'il y en a. Parce que c'est une telle contradiction avec le message d'accueil de l'Évangile que c'est un peu insupportable. Alors tout ça, ça a créé une semaine qui n'était pas très facile pour les responsables. Puis je dirais pas très facile non plus pour moi pour préparer un message dans cette ambiance. Mais voilà. Face à ça, j'aimerais voir ce que l'Évangile peut nous dire. Et je vais lire un verset dans l'Évangile de Jean que Thierry pourra peut-être afficher. Jean 14:1. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Alors cette parole de Jésus, elle est racontée par Jean, elle se situe aux deux tiers de l'évangile de Jean. Jean a 21 chapitres, on est au début du 14e. Mais chronologiquement, on est tout près de la fin des 3 ans de ministère de Jésus. On est à la veille des événements qui vont amener à l'arrestation de Jésus, à sa crucifixion et à sa résurrection. Les disciples qui suivent et entourent Jésus ne le savent pas, mais ils pressentent bien la tragédie qui se prépare. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais Jésus vient de leur dire, et ça se passait en fait au moment du lavement des pieds, juste après, pendant le repas, Jésus vient de leur dire que l'un d'entre eux allait le trahir. Et puis, peu après, alors que Jésus était en train d'évoquer sa mort, mais un peu à mot couvert, Pierre lui dit avec enthousiasme qu'il est prêt à mourir pour le suivre n'importe où. Et puis Jésus lui casse un peu son enthousiasme. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois », Jésus lui dit. On comprend que les disciples soient un peu troublés, plus qu'un peu, même inquiets. Il y a de quoi. C'est une peur diffuse qui se répand dans le petit groupe. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit cette parole que je relis. « Ne soyez pas troublés, vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Vous croyez en Dieu, mais ce n'est plus seulement un Dieu lointain, une puissance supérieure, une intelligence originelle, c'est un Dieu personnel, révélé en la personne de Jésus, dans sa vie, dans son message, cette vie qui s'apprête à être donnée pour notre salut, cet homme qui nous révèle le vrai visage de Dieu, cet homme qui est le chemin, la vérité et la vie, dans le chapitre 14 qui suit. Alors, revenons un peu sur ces peurs qui nous habitent. La peur, au départ, c'est un mécanisme naturel de défense, qui est indispensable à la survie biologique. Mais elle peut aussi prendre des aspects irrationnels. Alors là, je prends des exemples un petit peu bêtes, mais voilà, pour moi, j'ai quelques petits soucis avec les chiens. Alors, ça peut me mettre en situation de panique. J'ai fait une fois honte à ma belle-fille parce que en me promenant dans le parc de Gentot où les chiens se promènent sans laisse. Voilà. Puis il peut m'arriver d'avoir une réaction physique assez curieuse. J'entends un bruit qui ressemble à un bruit de chaîne de chien, et je commence à voir la chair de poule avant même d'avoir entendu consciemment le bruit. Alors, ce n'est pas très rationnel, hein, mais voilà. Juste un petit exemple. Alors, plus profondément, la peur et l'inquiétude, ça peut devenir un poison dans nos vies. Ça peut devenir un poison dans nos vies personnelles, notre vie communautaire et dans la société. Et face à la peur, qu'elle soit légitime ou irrationnelle, face à l'inquiétude, Jésus nous lance cet appel à la confiance. C'est une confiance active en Dieu qui s'appuie sur notre foi en la bienveillance de Dieu. La bienveillance de ce Dieu créateur qui a des projets de vie pour nous. Mais si on va un peu plus profond, notre peur fondamentale, c'est pas facile d'en parler, mais c'est celle de notre propre mort, de notre finitude. Et j'aimerais lire quelques versets de l'épître de Jean qui font allusion à ça. 1 Jean 4, les versets 16 à 18 que je peux afficher, merci. Et je demanderai à Joël de les lire.
Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition, et donc celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier.
Alors Jean parle ici de cette certitude fondamentale qui peut nous libérer de la peur. Plein d'assurance au jour du jugement. C'est une assurance qui est basée sur cette certitude d'être aimé par Dieu. Et d'être sauvé par Jésus-Christ. Qui nous permet de vivre avec cet amour comme motivation première et non plus avec la peur. Et elle est basée sur une vie semblable à Jésus-Christ, non pas parce qu'on serait aussi parfait que Jésus-Christ, hein, c'est pas de ça qu'il est question, mais tout simplement parce que Jésus devient notre modèle de vie et c'est en vie en le suivant. Il y a une dizaine de jours, j'étais avec Armand Heiniger au service d'adieu de Pierre Muller, un ancien missionnaire au Laos avec qui on a travaillé autrefois. Et voilà, il est décédé subitement, alors qu'il se promenait avec sa petite fille, et sans signe avant-coureur. Mais les enfants nous ont raconté que l'année dernière, alors que le Covid arrivait, puis qu'il parlait de ça et des risques, etc., il a dit, moi, j'aimerais continuer à vivre, être avec mes petits-enfants, mais si ça doit arriver, je suis prêt à la rencontre ultime. Voilà, il était paisible et serein par sa confiance en Dieu. Celui qui craint n'aime pas de façon parfaite, dit Jean. Alors, dans la vie réelle, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on fait ou qu'on évite par peur de la punition, par peur de ce que vont penser les autres, ou par peur d'une amende. En tout cas, moi, ça m'arrive. Et sans doute qu'il y a un rôle pédagogique à cette peur de la punition, peur du gendarme. On en a quand même besoin, peu ou prou. À l'école, avec les enfants, à la maison, sur la route. Voilà, mais l'Évangile nous appelle justement à une autre attitude, à autre chose, agir par amour et pas par peur. Agir en fonction de ce qui est profondément juste et pas en fonction de ce que pensent les autres ou de ce qu'on peut craindre. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous orienter dans notre manière d'éduquer les enfants, d'enseigner, etc. Mais c'est un processus, hein, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout fait. Mais justement, ce qui peut nous libérer vraiment de la peur, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, elle induit une confiance en nous-mêmes qui n'est pas basée sur les performances, ni sur la perfection, ni sur quoi que ce soit de semblable, mais simplement parce qu'on se sait une créature aimée de Dieu. Et dans le domaine de la santé, mais ça nous amène à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin de notre santé, individuellement et collectivement. Mais ça signifie aussi qu'on est prêt à accepter notre fragilité. Puis je crois que ça, c'est peut-être une chose qui est importante et qu'on a peut-être perdu hein, dans la société d'aujourd'hui. Une confiance aussi envers nos autorités, quelque part à rétablir. Alors, pas une confiance aveugle, une confiance lucide, une confiance réfléchie. Il ne s'agit pas d'être naïf et il ne s'agit surtout pas de se laisser séduire comme la majorité des chrétiens se sont laissés séduire par les discours de Hitler dans les années qui préparaient la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a des domaines où on doit s'engager. Je pense à l'écologie parce qu'il est aussi en lien avec la peur. C'est une question majeure d'aujourd'hui et je pense que c'est notre devoir de chrétiens et d'église de nous y engager, peut-être plus que ce que nous faisons. Parce qu'il y a de très bonnes raisons de changer de manière profonde nos styles de vie, nos manières de consommer et de voyager. Mais c'est aussi un domaine, c'est pour ça que j'en parle là, où il y a des peurs qui viennent. Des peurs et même des espèces de désespérance, on n'a plus d'avenir. Et là, je pense qu'en tant que chrétien, on peut être des gens qui transmettent qu'il y a une espérance, parce qu'on a un Dieu qui a des projets de vie pour nous. Alors, que faire de tout cela? Je pense tout d'abord, il y a ce qui se passe dans l'intimité de notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. C'est ce qui se construit dans la prière, dans la méditation, dans la réflexion personnelle, la lecture de la Bible, mais aussi le partage avec les autres. Parce que parfois, à l'écoute de ce que les gens nous disent, ça nous renvoie des choses qui mettent à jour nos motivations ou qui font ressortir nos frustrations ou bien des attentes ou des peurs qui sont là au fond de nous. Notre besoin de reconnaissance ou des blessures qui sont restées ouvertes. Donc tout cela, ça peut se travailler avec les autres. Et puis il y a ce que nous vivons dans l'Église. Parce que l'Église, c'est justement le lieu où on peut apprendre ensemble à faire confiance à Dieu. Mais comme on l'a remarqué, l'Église elle est traversée par des interrogations, par des inquiétudes, par des fractures. Et je pense qu'on a le privilège dans notre Église quand même d'avoir une expérience de diversité, de pouvoir dialoguer sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais où on peut se respecter. Mais ça, ce n'est pas un acquis définitif. Ça, c'est un bien précieux qu'il faut continuer à cultiver. Et là où on en est maintenant, ben, c'est un point délicat. Pouvoir s'accueillir, s'écouter sans jugement, même si on a des avis opposés. Et finalement, je crois que ça peut avoir un impact social, notre manière d'être avec nos peurs et notre confiance, comme personne ou comme communauté. Parce que la peur et l'inquiétude sont contagieuses, mais la confiance et l'espérance aussi. Alors, une part de notre témoignage, c'est que des personnes rencontrent le Christ personnellement. Mais je pense qu'il y a aussi un impact et une valeur au-delà de notre cercle qui peut être transmis en transmettant quelque chose de cette espérance et de cette confiance. Alors, en apprenant à vivre libéré de la peur personnellement et en Église, je crois que nous pouvons être des porteurs de paix et d'espérance aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à le devenir.
Merci Sylvain. Dans un instant, on prendra un temps où on pourra ensemble prier, puis peut-être redire notre confiance à Dieu. Mais je voulais aussi faire un retour, et on va aussi prier pour ça, par rapport au colloque d'hier, de vendredi. Le colloque, c'est l'Assemblée Générale de notre Église. Puis on a eu quelques informations importantes concernant l'Église, sa participation à la vie de la commune, ses relations avec les autres associations, certains projets à venir. Mais la question principale du colloque, c'était l'élection du Conseil. Un groupe de recherche a travaillé à différents niveaux. C'est un travail qui a duré plusieurs mois avec des interviews, il y a eu des temps de prière, des sondages, beaucoup de discussions et d'échanges, et ils nous ont proposé un nouveau conseil qui a été élu vendredi soir. Alors d'un côté, le groupe de recherche a terminé son mandat, nous les remercions pour leur travail. De l'autre, c'est un nouveau conseil qui se met au travail avec une transition qui va se faire ces prochaines semaines. Si vous n'avez pas suivi les noms, il s'agit de Michaela Adriana Solo, Zena Battisti, Sylvain Dupertuis, Barbara Jeunecamp, Johan Lerèche, Jean-Christophe Piguet et Mathieu Schmitt. Alors, une diversité de genre, comme il a été mentionné, d'âge. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand moi j'ai vu la liste, quand j'ai reçu les papiers pour voter, mon cœur il s'est rempli de joie et de reconnaissance, déjà pour eux et leur engagement, et surtout envers Dieu qui fait vivre son Église, qui en prend soin, malgré certaines difficultés, malgré voilà, tout ce qui se passe autour. Alors j'avais à cœur qu'on prenne aussi un temps ce matin pour prier pour eux, pour cette transition, pour les défis, à cause de la situation, à cause de l'évolution de l'Église, de tout ce qui les attend. Il y a des anciens et entre guillemets expérimentés, il y a des nouveaux, voilà, qui puissent trouver leur place et qu'ils puissent conduire l'Église avec les pasteurs, puisque je ne les ai pas mentionnés, mais les pasteurs font aussi partie du Conseil. Du coup, je vous propose un temps de prière où on pourra mélanger ce thème de la prédication, nos craintes, la confiance en Dieu, en souhaitant qu'elle soit contagieuse, et puis notre nouveau conseil, notre ancien conseil, cette transition, les pasteurs, cette gouvernance entre guillemets de l'Église. Alors, vous êtes invités à prier, vous pouvez le faire dans votre cœur. Je vais passer avec un micro, si vous arrivez à faire signe, je vous le passerai également.
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de ce rappel qu'au fond, l'antidote à la crainte, c'est la foi en toi. Et nous voulons te faire confiance pour notre vie personnelle et aussi pour le ministère collectif du nouveau conseil que nous avons eu ce plaisir de délire vendredi soir. Nous te remettons chacun de ses membres et cette transition, ce passage d'information, de connaissance, que tout se passe dans la paix, dans le calme, dans cette perspective de ce nouveau monde vers lequel nous allons avec foi. Amen.
Oui, Seigneur, nous avons déjà beaucoup entendu parler de ton amour. Nous l'avons saisi avec notre intelligence. Et pourtant, Seigneur, nous avons besoin d'intégrer, de comprendre avec notre cœur cet amour que tu as eu pour nous, qui nous permette à notre tour, non pas de devoir rendre l'amour aux autres, mais de le partager parce que nous l'avons reçu nous-mêmes en premier. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu as aussi des promesses. Comme tu le dis, je connais les projets que je forme à votre sujet, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de vous donner un avenir et une espérance. Seigneur, cette espérance, tu la mets dans nos cœurs comme une encre dans la foi. Et nous voulons, Seigneur, qu'elle puisse se partager, qu'elle puisse s'exprimer dans nos relations les uns avec les autres. Nous avons besoin de toi, de ton esprit, afin d'être rempli de ta présence, de ta parole, de ton amour, par Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, tu as dit aussi, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Alors que nous sachions la saisir et vivre dans cette paix. En ton nom, Jésus. Amen.
Seigneur notre Dieu, je te remercie pour le rappel de tes promesses ce matin. Promesses de ton amour pour nous, promesses de cette confiance que nous pouvons t'apporter en toute sécurité, promesses d'espérance. Tu nous incites aussi à marcher ensemble dans la paix que tu as apportée dans le cœur de l'homme. Et merci pour ce signe de profonde espérance qui est représenté par le renouvellement de ce conseil, qui, eux, ont confiance et espèrent aussi dans la vie de l'Église, une Église appelée à grandir et à témoigner de cet amour les uns pour les autres. Béni sois-tu, loué sois-tu pour toutes choses, parce que tu es Dieu. Le Dieu non seulement de l'univers, de la création, mais notre Dieu qui regarde jusqu'à nous et qui marche à nos côtés, qui nous aime et qui nous rend libres. Merci pour le cadeau de ce rappel ce matin. Et je te remets toutes choses dans notre Église, dans ce monde un peu fou. Je te remets toutes choses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, je te demande d'encourager, de donner plein d'encouragement au nouveau conseil, à ceux qui ont déjà parti maintenant et qui les nouveaux arrivants, et deux versets. Or, à celui qui peut faire là, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen.
Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance dans les petites choses comme dans les grandes choses, dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église. Merci pour le conseil, que tu les renouvelles, que tu leur donnes une unité pour travailler ensemble, les compétences nécessaires. Merci parce que tu nous permets à tous de nous engager et nous voulons te remettre ceux qui sont particulièrement en avant dans le travail pour toi. Seigneur, que tu les accompagnes et que tu les gardes. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes.
C'est un beau moyen de terminer ce temps de culte. Nous allons encore avoir les annonces. Ça va si je les fais, Joanne, si jamais tu rajoutes. De ce qu'on m'a transmis, il y a le caté vendredi. Le caté, c'est pour les 11-15 ans et c'est à 17h ici. Mardi, la réunion de prière aussi ici. Est-ce que c'est 20h ou 20h15? 20h15, d'accord, merci. Et puis, les deux prochains cultes, si vous avez à cœur de préparer, de lire à l'avance, etc., les deux prochains cultes traiteront d'Eli et de la dépression. Et les textes associés se trouvent donc dans 1 Roi, les chapitres 18 et 19. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Je vous rappelle encore que pour l'offrande, eh bien, en sortant, il y a le petit panier. Alors, vous pouvez faire avec Twint, mais si jamais, un billet ou une pièce, ça peut aussi être déposé directement en sortant. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à rajouter ? Sans me jouer. Très bien. Je laisse venir pour la bénédiction.
Oui, vous pouvez vous lever. Merci. Je lis un verset que Paul adresse aux Romains, précisément par rapport à une des fractures de l'époque dont il leur avait parlé au début du chapitre. En résumé, dit-il, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Eh bien, que vous soyez bénis et en bénédiction les uns pour les autres et autour de vous. Bonne semaine.